With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team, je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport et ce vendredi, je veux commencer par remercier un tweetos, Julien en l'occurrence, qui m'a ouvert les yeux sur une évidence. Cela fait maintenant 15 ans que je côtoie Maxime, 6 ans que je présente cette émission avec lui. Trouver des sosies est, pour ceux qui me connaissent et ils le savent, ma plus grande passion.
J'ai un peu peur.
Et je n'avais jamais fait le rapprochement. Mais alors, jamais. Donc, je reprends le gentil message Twitter de Julien, envoyé cette semaine. Je vous le lis. Merci pour ces émissions hebdomadaires du FC Stream Team depuis tant d'années. Pour te remercier, un petit cadeau. Je regarde le doc Netflix sur la FIFA et la ressemblance entre ton acolyte et un certain monsieur m'a frappé. Oui, je pense que Maxime Dupuis est en réalité le fils caché de Seb Blatter. Et je dois dire, Julien qui m'a envoyé donc cette photo, je la montre à Maxime. Et je dois dire, Julien, qu'effectivement, c'est assez bluffant et que tu m'as convaincu, mais alors à 100%. Et alors, je l'ai montré à plein de gens de la rédaction qui m'ont fait part également. Mais Maxime, c'est incroyable.
Il a un visage beaucoup plus large que moi.
Tu pourras dire tout ce que tu veux, on est tous d'accord là-dessus. Dans ses plus jeunes années, et allez faire une recherche sur Google Images, mettez Seb Blatter jeune. Effectivement, il avait des airs de Max. Ça, c'est clair et net. Et pour ceux qui nous écoutent en podcast, voilà, allez sur Google Images, cherchez Seb Blatter jeune et vous verrez que la vraie identité de mon acolyte, je pense, c'est Maxime Blatter Dupuis.
Alors, on n'est jamais très bon pour se voir.
Ah non, mais là, Maxime, les yeux, y a tout.
Alors, je vous concède peut-être que la forme des yeux.
Ah non, mais c'est incroyable. C'est incroyable.
Mais il a un visage beaucoup plus large que le mien.
Non, mais on ne va pas s'arrêter sur tous les détails. On a déjà cette chevelure, on va dire, éparpillée, timide. On a ses yeux de biche.
Fourbe.
Ses yeux de fourbe. Et le front. Le front qui, bah voilà, qui grandit avec l'âge.
Non, alors mon front ne grandit pas avec l'âge.
Regarde. Regarde les yeux, mais c'est les yeux. C'est incroyable. Maxime, c'est Seb Blatter. Et je m'en rends compte, mais ça fait quand même 6 ans qu'on fait cette émission ensemble. Putain, j'anime cette émission avec Seb Blatter quand même.
Eh ben écoute.
Tu as des petits yeux, les petits yeux comme ça, un petit peu.
Je peux admettre les petits yeux, mais en fait, là, avec toi, je suis passé de. Comment il s'appelle, le chanteur de Boyzone?
Oui, le chanteur de Boyzone à Seb Blatter.
À Seb Blatter.
Oui, oui.
Donc là, je sais. Alors. Au niveau de la carrière, je sais pas ce que ça dit.
C'est incroyable.
J'avoue que c'est la première fois qu'on me l'a fait.
Mais Julien. Alors franchement, merci Julien, parce que là, mais tu as égayé ma semaine et la semaine de tout Eurosport, je dois le dire, parce que j'en ai parlé à tout le monde. Et tout le monde est d'accord avec moi.
Je sais pas si je dois te remercier, Julien. Je sais pas, je reste quoi. Voilà,
faut
que je digère cette. Alors vraiment, je l'avais pas vu venir. Pour le gabarit. Ouais, non, mais c'est la forme visage qui est beaucoup plus.
Non, mais attends, on parle pas d'âge, on parle pas de gabarit, on parle pas de.
Ah non, on parle pas
ça.
D'âge, mais là, il a quel âge sur la photo là?
Je sais pas, il doit avoir 30 ans, je pense.
Ah ouais,
j'imagine.
Il est plus vieux que moi. Là,
mais toi, Maxime, je t'ai déjà dit, tu rajeunis avec l'âge. Donc ça, on n'y peut rien, c'est comme ça. Donc voilà.
Alors non, en vrai. La seule chose que j'espère, il y a deux choses que j'espère.
C'est que tu finiras pas comme lui.
C'est de pas finir capillairement comme lui.
Oui.
Et aussi, si possible, de pas passer par la case jugement et avoir des gros problèmes.
Ça, Maxime, a priori, je connais ton honnêteté et tu es à l'abri de ça.
Ouais, mais tu m'as pas défendu sur les cheveux.
Je t'ai pas défendu sur les cheveux parce que je trouve qu'effectivement, il y a quand même quelque chose. Il y a quand même quelque chose. Donc, présenter le FC Stream Team à 2 jours du début de la Coupe du Monde en compagnie de Seb Blatter, on pouvait difficilement faire mieux.
C'est le côté Machiavel aussi qui est un peu perturbant. Bon, alors, en revanche, je vais faire un appel au peuple, là, maintenant qu'on y est. Parce qu'il n'y a pas de raison. Vous le faites à Martin. Envoyez-moi aussi les sosies éventuelles, Martin. Alors, il y en a un qui me marque.
Gênant. Tu vas tomber sur des DiCaprio. tu vas tomber, voilà, ça va être gênant.
Il y en a un qui est... Alors, c'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais c'est pas vraiment dans le visage, mais sa façon d'être et de mouvoir son visage et d'avoir presque trop de peau.
Ça, tout le monde me le dit.
C'est
ça.
Jim Carrey.
Ça, tout le monde me le dit.
C'est... Alors, évidemment, il a pas le quart du talent artistique de Jim Carrey.
Cela dit, je préfère ressembler à Jim Carrey qu'à Sam Blatter. Hein.
Mais franchement. Regardez Jim Carrey.
Mais oui, ça tout le monde me
la
le dit.
La façon, surtout le, c'est pas tellement le bas du visage qui se meut pareil, on va dire.
Ouais. Bah, écoute, Jim Carrey, ça me va, hein. C'est la classe quand même. Hein.
C'est la classe. Et d'ailleurs, non, mais j'avais parlé de Jim Carrey, j'avais écouté un super podcast sur. Il y a des gens qui ont fait des tests sur Jim Carrey et c'est fascinant parce que c'est un immense acteur en vrai.
Bah évidemment.
C'est un comme décalage entre l'image de ses films.
Non, comme je suis un immense journaliste. Allez, on y va. On va donc faire une émission évidemment 100% Coupe du Monde. On va dire 75% bleu, puisque l'équipe de France fera son entrée dans la compétition mardi face à l'Australie, que les Bleus sont arrivés à Doha, et donc qu'on va articuler cette émission autour de trois sujets. Je sens que ça va être compliqué avec Maxime, mais on va essayer quand même. Trois sujets. On démarra évidemment avec la grosse actu, l'actu chaude. C'est Karim Benzema et Raphaël Varane qui ne se sont pas entraînés avec le groupe. C'était jeudi, donc à Doha. Et on va se poser cette question toute simple. Est-ce qu'ils pourront démarrer face à l'Australie? Voilà, qu'est-ce qu'on en pense ici de Karim Benzema et de Raphaël Varane?
Est-ce bien raisonnable? On va encore parler de l'équipe de France, évidemment, mais on va élargir le spectre. On ne va pas se baser sur deux individus. On sait que l'équipe de France est au Qatar, pour gagner une deuxième fois la Coupe du Monde d'affilée. Et on va essayer de se pencher sur son plus gros, non pas défaut, mais peut-être le plus gros danger qui guette cette équipe avant le premier match. Qu'est-ce qui pourrait empêcher l'équipe de France, évidemment, de gagner la Coupe du Monde une deuxième fois?
Une troisième fois.
Oui, enfin, deuxième fois de suite. À 7 heures, il y a pas mal de choses, mais on va essayer de fixer des gros dangers qui guettent les Bleus.
Et on terminera avec nos favoris. Alors justement, est-ce que les Bleus en font toujours partie malgré ces gros dangers qui les guettent? Voilà, on vous fera nos favoris avec les petites étoiles, vous connaissez. Ça, c'est très classique, mais c'est toujours sympathique à déguster. T'es prêt, Maxime?
C'est parti. Première chose, vous pouvez retrouver le podcast évidemment sur toutes les bonnes plateformes de podcast, Eurosport Football Club, Eurosport FC, pardon. Et je vous rappelle une chose, c'est que pendant la Coupe du Monde, on passe en quasi quotidienne avec, on fait relâche à J+2 des matchs des Bleus. Et là, c'est Cyril Morin qui viendra avec Tour du Monde et tout. C'est chroniqueur.
Vous retrouverez aussi ce podcast sur sebblatter.fr. Mais c'est incroyable. Là, je te vois parce qu'on a un retour image. C'est incroyable, mais je ne vois plus que Sepp Blatter, c'est un truc de malade. Oh, c'est un truc de malade. Julien, t'as changé ma vie.
En tout cas, quel âge il a? 85 ans, c'est Sepp Blatter en 1947. Alors.
Ouais, c'est un peu ça. Allez, on va démarrer cette émission avec les doutes qui escortent les Bleus, et notamment sur l'état de santé de Raphaël Varane et Karim Benzema. Les deux joueurs se sont entraînés à part, ils étaient 24 d'un côté et 2 de l'autre, donc Karim Benzema et Raphaël Varane. Maxime, ma première question, elle est simple, elle est claire. Est-ce qu'il faut douter de leur présence face à l'Australie mardi?
Je crois que tu allais me dire, est-ce qu'il faut les aligner? Douter, oui, évidemment, parce que on va reprendre les choses dès le début. Didier Deschamps a dit qu'il n'emmènerait des joueurs, seulement des joueurs capables d'être là au premier match face à l'Australie, donc de pouvoir jouer. Je pense qu'au moment où il le dit, il est à peu près persuadé que c'est possible, que c'est plausible, et que surtout, c'est Benzema et c'est Varane, et qu'on ne peut pas faire des passes droits pour certains joueurs, mais il y en a d'autres qui, évidemment, le méritent, parce qu'il n'avait pas aussi parlé de la concurrence, et évidemment, quand vous retranchez Benzema et Varane de cette équipe type, ça change un peu la donne. Je pense qu'il est en train de se rendre compte que ça va être quand même très très difficile, parce que le but c'était de les avoir sur un entraînement, on va dire, classique, collectif pour le premier jour au Qatar. Or, le premier jour au Qatar, c'était jeudi sur l'entraînement, le vrai entraînement, et il se trouve que les deux n'étaient pas capables. Le match, c'est dans 4 jours, c'est mardi. La question que j'ai envie de me poser, même s'il a des signes qui sont positifs, c'est est-ce bien raisonnable, tout simplement? Parce que maintenant qu'on en est là, maintenant qu'ils sont là, il faut aller avec eux. Mais faut rappeler ce qu'est l'Australie, c'est une équipe quand même un peu rude. Et moi, je serais australien, j'aurais Benzema et Varane sur le terrain. Je pense que je leur mettrais un peu la pression, voilà, tout simplement.
Oui, c'est un vrai risque, parce qu'on rappelle que Karim Benzema n'a joué qu'une vingtaine de minutes depuis le 19 octobre dernier, que Raphaël Varane, lui, n'a pas joué la moindre minute depuis le 22 octobre dernier. Donc même si leur corps tient, il y a une question de rythme, il y a le risque effectif de la rechute aussi. Donc il y a de vrais doutes qui entourent leur titularisation. Et c'est vrai, comme tu le disais, ils sont là. Donc de toute façon, il faut peut-être voir aussi à moyen ou peut-être long terme avec eux, même si une Coupe du Monde, voire à long terme, c'est impossible puisqu'on a 3 matchs et ça peut se terminer là. Moi, là où j'ai aussi une crainte, c'est quand on regarde comment Deschamps a construit son groupe. Il a fait d'abord une liste des 25, puis il a appelé de nouveaux joueurs. Il a appelé Marcus Thuram, donc une pointe en plus. On a quand même analysé ça comme peut-être qu'il y a des doutes autour de Karim Benzema et donc qu'on s'offre une nouvelle option. Puis, Christopher Nkunku est forfait. Et on appelle qui ? On appelle Randal Kolo Muani, qui lui aussi est un numéro 9. Donc désormais, on a 3 numéros 9 en plus de Benzema, qui sont Giroud, Kolo Muani et Thuram. Or, on aurait pu appeler un joueur avec un rôle à plus à la Nkunku, un Terrier, un Fekir ou qu'importe. Et quand Kimpembe s'est blessé, on n'a pas appelé un axial gauche, mais un axial droit, Axel Disasi, qui lui aussi peut remplacer Varane. Bref, tous ceux qui sont venus compléter ce groupe de l'équipe de France, ils sont là, en backup, de Benzema et de Varane, ça dit peut-être aussi quand même que Deschamps est plus inquiet que prévu.
Ouais, on a eu la preuve ultime pour Disasi, c'est-à-dire que quand Deschamps a commencé à répartir ses joueurs, il a dit à la conf des 25 à l'époque, il avait dit Pavard, Koundé étaient des arrière-droits, et là il a dit clairement Lucas, qui était a priori, si on faisait une équipe, on pouvait dire les deux Hernandez vont jouer côte-côte face à l'Australie, qui était arrière-gauche. Donc en gros, ce que vous voyez, c'est qu'il y a deux joueurs partout, sauf au axial droit, avec Disasi, donc il y a vraiment un gros doute sur Varane, donc c'est vraiment un souci. Moi, ce que je voudrais pas, c'est que la gêne de Benzema soit à 2022 ce que la cuisse de Zidane a été en 2002. C'est-à-dire qu'on fait une fixation là-dessus. Voilà. C'est le feuilleton, pas exactement à la même ampleur, parce que il est ballon d'or, mais c'est pas, il n'y a pas l'aura de Benzema, de Zidane sur l'équipe de France. Mais j'ai l'impression que c'est en train aussi, même dans les esprits, ça pollue un petit peu. Parce qu'il y a les confs de presse, on parle de ça. Et puis il y a une communication, une petite musique qui se met en marche. Dire, non, mais tout va bien, on a confiance, ils se connaissent.
C'est toujours comme ça.
C'est toujours comme ça. Et c'est jamais bon quand ça cache quelque chose. Moi, ce qui m'embête avec Benzema, Varane évidemment. Mais Varane, à la rigueur, c'est assez clair. Il s'est blessé, il faut qu'il revienne. Il est dans une course contre la montre qui n'est pas forcément gagnée, mais qui suit son cours. Ce qui m'embête avec Benzema, c'est que
on sait pas
musculaire, une gêne, et quand vous commencez à ne pas donner les noms à une blessure, c'est le fameux flou et le loup, c'est qu'il y a quelque chose derrière qui est pas certain. C'est difficile de se passer de Benzema, il est ballon d'or, et puis encore une fois il donne des gages de dire non mais ça va aller, et je voudrais pas que cet état de fait vienne polluer la fin de, non pas de préparation, parce qu'il n'y a pas de préparation, mais l'avant Australie.
Et la question qu'il faut se poser, c'est si ça n'avait pas été Benzema ou Varane, serait-il là? Et ça, c'est une vraie question. Et j'ai peur que la réponse soit non. En plus, Didier Deschamps a perdu Kanté et Pogba, qui étaient deux cadres. Donc peut-être qu'en plus, s'il y avait eu Kanté et Pogba, peut-être qu'il se serait passé un peu plus facilement. Peut-être pas de Benzema, mais de Varane, qui a un poids énorme dans le vestiaire, dans le groupe. C'est un vice-capitaine. Voilà, c'est ce qui est aussi, c'est ce que je crains aussi, c'est que Didier Deschamps les ait pris. Pour leur statut, il a bien sûr dit que non, parce que ça ne peut pas être autrement. Mais enfin, quand tu as le ballon d'or, plus ton vice-capitaine, champion du monde, dans un effectif très jeune qui a dû être renouvelé, c'est un facteur quand même qui entre en compte.
Ouais, comme je disais, il l'a peut-être pas fait. C'est pas sciemment ou avec un agenda caché, parce que tout simplement, il se dit ils vont se remettre. Simplement, voilà, on lui dit que ça peut le faire, que ça peut aller. Le truc, c'est qu'il se retrouve dans une situation aujourd'hui où on a parlé de la concurrence. Tu parlais de la colonne de 2018. La colonne de 2018, elle n'a plus de vertèbre. Il reste Loris. Griezmann, c'est une colonne, c'est une vertèbre. Mais bon, Griezmann, voilà, il a perdu un peu d'influence, malheureusement. Là, on peut se retrouver potentiellement face à l'Australie avec juste Loris et Griezmann. Voilà, il manquera beaucoup au milieu. Donc voilà, c'était compliqué de ne pas les emmener. Surtout, je pense qu'il pense sincèrement que c'était gagnable. Maintenant, je pense qu'à 7h, on verra ce que ça nous dira. On est vendredi, on enregistre aujourd'hui vendredi. Je ne suis pas sûr que le jeu en vaille la chandelle de prendre le risque. 2018, ce n'est pas exactement la même blessure, mais souvenez-vous, Giroud, qui est blessé à la tête, il me semble, c'est les États-Unis, le match avant. Oui. Voilà. Il ne joue pas le premier match, ça ne se passe pas très bien, mais finalement, il y a les 3 points. Ça change, voilà. Je pense que...
Il faut se donner un délai supplémentaire.
Qui veut aller loin, ménage sa monture.
Oui, oui, oui.
Et dans le cas...
Oui, j'ai l'expression de pépé, mémé.
Une expression suisse. Dans ce cas-là, je pense qu'il ne faudrait pas prendre de risques. Alors, on pourrait se retrouver donc avec Saliba à la place et Giroud en pointe.
Ou il y a pire comme solution de recours.
Il y a pire, il y a un risque parce que c'est un premier match de Coupe du Monde. Tout ce qu'il y a autour, une charnière qui n'est absolument pas expérimentée, potentiellement pour avoir une défense qui est bizarrement expérimentée sur ses côtés avec les joueurs qu'on n'attendait plus forcément titularisés. Et dans l'axe, ce manque d'expérience. Moi, j'avoue que je suis. S'il ne s'entraînait pas ce soir, vendredi, correctement, je pense que là, vraiment, le jeu n'en vaut pas la chandelle.
Et alors, juste parce que là, l'avenir est sombre si on nous écoute, simplement quelques éléments factuels. Jeudi, Benzema et Varane étaient quand même tout sourire à l'entraînement. On ne sentait pas non plus une inquiétude folle qui transpirait de leur visage ou de leurs attitudes. Il y a eu des accélérations, ils ont touché le ballon, il y a eu des changements de rythme. Et ils avaient l'air quand même plus ou moins libérés. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, quand on écoute les joueurs de l'équipe de France, alors il faut donner l'importance qu'elle mérite à ces déclarations-là, mais tout de même, Adrien Rabiot, ce vendredi, qui a dit « Karim est un cas à part, c'est un attaquant, c'est moins handicapant pour un attaquant que pour un milieu ou un défenseur de manquer de rythme. » Voilà. C'est un joueur de très haut niveau, il sait se gérer. Et après, chacun nous a dit quand même, que ce soit Tchouaméni, Rabiot, ou je sais plus qui, si, ou Lucas Hernandez, chacun nous a dit voilà, ils sont heureux, ils sont prêts, ils suivent un agenda. On ne sait pas s'ils seront là contre l'Australie, mais ça suit son cours. Voilà.
Après, Rabiot, il a dit deux, trois autres trucs qui étaient contradictoires, donc je ne sais pas si je me fierais. Alors, le moins besoin de rythme pour un attaquant, alors là, j'avoue que non, il en a besoin autant, et le risque, c'est du très très haut niveau. Et surtout que la blessure de Benzema, elle est. Je pense qu'il y a tout ce qui est autour du Ballon d'Or, comment il a digéré ça. Il y a eu peut-être un relâchement, évidemment pas de son fait, mais je veux dire, voilà, tout ce qui lui est arrivé, c'est un tourbillon incroyable à Benzema. Ben voilà, et le côté, je vais jouer une Coupe du Monde, etc. Donc c'est aussi ça, c'est encore une fois, c'est ce qui rend cette blessure, je trouve, très difficile à appréhender. Plus que Varane, pour le coup, où là, on est vraiment sur un cas très classique, donc on verra, mais. On verra,
mais on n'est pas optimiste, quoi.
Hein, s'il fallait. Ouais, voilà.
Allez, on va continuer de parler de l'équipe de France et de ses chances dans cette Coupe du Monde. Y a beaucoup de nuages qui s'amoncellent au-dessus des Bleus avant la défense de leur titre au Qatar. Maxime, j'aimerais connaître pour toi ta principale limite. Quant à un troisième sacre mondial de l'équipe de France à Doha.
Alors le premier c'est l'histoire, mais t'aimes pas que je parle de ça, donc
non.
Je vais
l'enlever. Mais si, tu peux.
Bah, c'est que depuis le Brésil 62, personne ne double et depuis.
Mais c'est ta principale limite, ça ?
Non, mais ça compte. Si personne n'y arrive, c'est qu'à un moment c'est pas un hasard et que depuis 5 dernières Coupes du Monde, le tenant se fait sortir au premier tour. Je ne dis pas que les Bleus vont se faire sortir au premier tour, loin de là. Non, moi, ce qui m'inquiète, et ça fait le lien avec le premier sujet, c'est évidemment l'état physique, tout simplement. Cette Coupe du Monde qui arrive en plein milieu de la saison, à une période où habituellement, quand il y a des rassemblements, les joueurs vous disent « Oh là là, on commence… » C'est un premier contre-coup parce que vous avez joué de la Ligue des Champions, etc. Alors, vous allez me dire… La préparation n'a pas été exactement la même, oui, sauf qu'ils ont joué beaucoup plus de matchs, que le premier tour de la Ligue des Champions est déjà terminé, que une équipe comme l'équipe de France, vous allez me dire, les autres équipes sont dans la même situation. Oui, sauf que l'équipe de France, il y a des joueurs, des stars, qui jouent dans des clubs qui sont parfois un peu plus exposés, où il y a beaucoup plus besoin de faire. C'est pas les seuls, hein, mais dans les grosses équipes, je trouve que ça m'inquiète. Et évidemment, le cas Varane, Pogba, Pogba, il n'est pas là, mais ça compte aussi, voilà, ça fait partie de ça. Ouais, l'état physique des troupes m'inquiète. La fraîcheur, donc Varane et Benzema, qui potentiellement pourraient rater le premier match, ou au moins ne seront pas à 100%. Mm-hmm. Moi, j'avoue que pour moi, c'est une inquiétude.
Moi, si j'ai une inquiétude, c'est plus la pièce en l'air jetée par l'équipe de France, qui a travaillé un système pendant un an pour finalement se retrancher derrière un nouveau système, qui va démarrer la compétition a priori avec des joueurs qui ont très très peu d'expérience et dont Didier Deschamps s'est finalement assez peu servi. Je pense à Upamecano ou Konaté, je pense à Fofana, je pense à ces deux joueurs-là, mais il y en a potentiellement d'autres. Finalement, même Tchouaméni a été assez peu, il a un an d'expérience et on parle d'une Coupe du Monde et d'une défense d'un titre. Pour un champion en titre, moi, ça me semble dangereux, en tout cas. Et tous les reculs qu'il y a eu de Didier Deschamps, c'est-à-dire on remet Pavard à droite, on remet Hernandez à gauche, alors qu'on avait plutôt dit que c'était des joueurs axiaux. Alors tout ça vient du changement de système, mais malgré tout, on a l'impression que Deschamps ne suit pas de ligne directrice. Finalement, je ne sais pas d'où vient cette équipe de France, et du coup, j'ai du mal à comprendre où elle va. C'est aujourd'hui ma principale limite, c'est ce mystère, ce flou total qui entoure le 11, son animation, les joueurs, etc. Pour moi, c'est une grosse pièce en l'air, cette équipe de France, et ça m'inquiète.
Je ne sais pas si Deschamps est en train déjà de se renier ou de renier ses lignes de conduite, mais une chose est sûre, pour le coup, là, il n'a pas de peau. Là, on va dire, ce qui est depuis l'euro, ça tourne à l'envers. Mais le problème, c'est que quand ça commence à tourner à l'envers, ça ne tourne pas bien. Et en fait, autant, je n'étais pas pour dire la fameuse chatte à Dédé que je déteste absolument parce que je trouve ça stupide. Et bien là, on est passé dans un truc complètement inverse, mais il subit les événements. C'est-à-dire qu'il se retrouve à avoir des événements qui lui tombent dessus, il les subit, et ça donne quoi ? L'impression, comme tu dis, de ce reniement. Contre l'Australie, il est complètement possible et même plausible que l'équipe de France joue dans son système de la Coupe du Monde 2018, celui qui était devenu trop prévisible, celui qui ne marchait plus, celui qui avait été rangé au placard pour le 3-5-2.
Avec un Pavard à droite qui ne faisait qu'il donnait plus satisfaction. Et c'est pour ça qu'on était passé avec les pistons. Enfin bon, bref.
Donc voilà. Et souvenez-vous, à l'Euro 2021, c'était pas forcément une réussite. Voilà. Donc là, il va s'asseoir sur ce qu'il connaît le mieux. Mais est-ce que la même recette peut fonctionner 4 ans après ? C'est le paradoxe de cette équipe qui, pour le coup, des fois, prenait 98-2002. Quand vous faites l'analyse a posteriori, évidemment Zidane, mais tout simplement que c'est une équipe qui ne s'est pas renouvelée, qui est vieillissante, qui a fini par avoir moins faim et être sûre d'elle. Cette équipe-là, c'est tout à fait le contraire. C'est-à-dire qu'elle va revenir potentiellement dans un vieux système, mais avec des armes qui sont complètement différentes. Parce que Didier Deschamps a aussi... Il n'a pas peur de renouvellement. Il l'avait fait entre l'Euro, entre la Coupe du Monde, etc. Ce n'est pas un problème. Mais là, il subit complètement. Et comme tu le dis... Il y a ce risque subir plus avoir des joueurs qui ne sont pas forcément en forme, ça devient compliqué.
Après, il y a une très bonne nouvelle là-dedans, c'est que l'équipe de France est moins attendue qu'elle devrait l'être. C'est-à-dire de par son statut, de par le réservoir de joueurs qu'elle a. Voilà, c'est avec le Brésil l'équipe qui a le plus d'individualité scintillante. Mais bon, Pogba et Kanté ne sont pas là. Voilà, il s'est passé pas mal de choses. Benzema est sur une jambe, etc. Et donc, on a finalement un effritement de la confiance. Je ne dis pas du groupe ou de Didier Deschamps. Je dis autour de cette équipe de France.
Ouais.
Qui en fait finalement moins favori que ce que ça aurait dû être. Elle aurait dû être au niveau du Brésil, normalement, si tout s'était bien passé. Ce qui n'était pas le cas à l'Euro, au dernier Euro, où pour le coup, elle avait la pancarte dans le dos, mais comme jamais, elle abordait cette compétition en ultra favori, comme en 2002 d'ailleurs. Et ça s'est toujours mal passé comme ça. Alors, on peut dire ce qu'on veut, mais moi je trouve que c'est une position dans laquelle, dont elle s'accommode mieux et dans laquelle elle est peut-être un peu plus efficace.
Ouais, mais là, quand je t'écoutais, je me dis, mais comment tu deviens imprévisible ? Parce que finalement, il faut qu'elle réussisse à surprendre ses adversaires. Et j'ai peur que le fait de revenir à ce système que moi j'aimais beaucoup en 2018, j'étais le premier à le défendre, je trouvais que Mathieu était un mal nécessaire sur le côté, un sacrifice nécessaire de son talent individuel pour le bien du collectif. Là, je ne sais pas si... Voilà, je pense que les Australiens, là, typiquement, ils sont... Déjà, ils savent... Moi, ça m'a beaucoup étonné que Deschamps dise très vite, on renonce. Nous, on le savait, ça se voit. Mais n'empêche de le dire... Bah, vous, alors, à moins qu'il te prépare le coup le plus incroyable, ça veut dire qu'il joue à 3 derrière contre Australie, mais j'y crois pas. Non, là, il donne des indices et d'arriver à dire bah, en fait, on sait à peu près correctement comment ils vont jouer. Donc, quand vous êtes comme ça, il faut être sûr de vos forces parce que vous n'allez pas forcément surprendre.
Et là, on ne l'est pas.
Et là, on ne l'est pas vraiment. Donc, je rêve d'une démonstration contre l'Australie qui n'est d'ailleurs pas l'adversaire rêvé pour un premier match. Mais je suis un peu inquiet.
Oui, puis on a quand même des joueurs, enfin, prenons Pavard et Hernandez, qui ne jouent plus à ces postes-là en club depuis des années. Ça a marché en 2018, donc il y a quelques raisons de se dire pourquoi finalement ça ne marcherait pas 4 ans plus tard. Pareil avec Upamecano et Konaté, on va lancer dans le grand bain finalement un joueur qui n'a pas aucune expérience internationale, mais finalement très peu. Mais ça a marché en 2018, encore une fois avec Pavard et Hernandez, donc on peut se dire... Pourquoi pas ? Mais comme tu le disais tout à l'heure, ce qui a marché en Fofana, c'est la même chose d'ailleurs au milieu de terrain. Ce qui a marché en 2018, est-ce qu'on a en appliquant les mêmes recettes, on a les mêmes réussites ? La même réussite, moi j'ai tendance à dire que ça coince.
Alors, si on veut aussi se rassurer, parce que on n'a pas une équipe de pimpins, c'est que comme tu dis, Pavard et Hernandez, c'est pas eux les titulaires au début de la Coupe du Monde 2018. C'est censé être Sidibé. C'est censé être Benjamin Mendy. Or, les deux ne sont pas en forme. Bah là, on a un coup de peau incroyable, c'est que les deux sont au niveau et se révèlent. Voilà. Donc, il va falloir espérer aussi qu'individuellement, les gars soient capables d'être au meilleur de leur forme et de ne pas être écrasés par le maillot. Et ça, parfois, il peut y avoir un doute. Tu les mettrais en quel compo ? Enfin, compo, pas la compo, mais en quel système ? Tu serais plus sur du 4-2-3-1 à la sauce russe ou un bon vieux 4-3-3 ?
Moi, ce que... que je viserais, ce serait un...
Le 0-0.
Non, ce serait presque un 4-4 de losange avec, ouais. tu vois, avec, Griezmann en soutien des deux. Après, un milieu à 3 et une défense à 4 logique. Parce que j'ai pas envie de voir Griezmann sur le côté droit. Voilà. Moi, c'est ma principale. Plus que de voir Rabiot en milieu asymétrique à gauche, ce qui me dérange, c'est de voir Griezmann à droite. Ok, on peut dire tout ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'effectivement, phase offensive, il repasse au milieu, tout ça. Mais on a vu ce que ça donnait à l'euro, ce système-là. Et que Griezmann, quand même, son influence, elle baisse. Et quand elle baisse, l'équipe de France est quand même un poil moins dangereuse.
J'ai pas envie de voir Griezmann à droite. Je me souviens du match contre la Hongrie à Budapest. Moi, j'étais derrière le but et j'étais côté droit un peu et je voyais que c'était un mouroir pour lui. Moi, dans un monde idéal, alors je vais être un peu paradoxal par rapport à ce que j'ai dit avant, c'est que...
Tu trompes pas la première fois.
4-2-3-1, j'aime bien, mais comme tu dis, il y a le problème de la droite. Et comme c'est très bien que s'il y en a qui va à droite, c'est Griezmann, c'est pas bon, voilà, tout simplement. Donc, c'est dommage.
Donc, tu ferais quoi ?
Je ferais pas ça, puisque voilà.
Donc, tu ferais quoi ?
Je vais sur un 4-3-3.
Voilà.
4-3-3, il n'y a pas vraiment le choix.
Mais 4-3-3, donc Griezmann à droite ?
Oui. À part, tu peux dire que quand ça joue, quand c'est en phase offensive, il repasse dans l'axe, mais il va y avoir le risque de se marcher dessus avec Benzema, moins qu'Mbappé, parce qu'il va être naturellement à gauche. Mais si on part du principe que Mbappé est titulaire, ce qui me paraît quand même une évidence, et qu'il va jouer a priori à gauche, ça ferme un peu la porte du 4-2-3-1 parce que Rabiot, tu ne le mets pas à gauche, tu le mets derrière. Donc, je sais pas. J'ai hâte de voir en tout cas ce que Deschamps prépare. En tout cas, je pense qu'il a une idée assez précise déjà, laquelle je ne sais pas. Et je voudrais rebondir une dernière fois.
Vas-y, dis pas, c'est ton émission, Maxime. Hein.
Non, tu rigoles quoi. Ce que tu disais sur Lucas Hernandez, sur les postes et changements de poste, il l'a dit ce matin en conférence de presse il a quand même dit oui, j'avoue que j'étais un peu surpris. Il a dit « je sais faire, il n'y a pas à s'inquiéter ». Mais c'est vrai que comme joueur arrière central au Bayern de ces derniers temps, ça m'a fait un peu bizarre, donc on verra.
On va terminer avec nos favoris pour la Coupe du Monde.
Ouais.
Parce que la compétition démarre dans 2 jours avec Qatar-Équateur, c'est ça, dimanche.
Qatar-Équateur, dimanche.
Et donc on a décidé de vous donner nos favoris pour la Coupe du Monde. Maxime, je te laisse détailler notre sentiment là, sur les favoris à la Coupe du Monde 2022.
Alors, nos favoris pour la Coupe du Monde, on a passé à peu près 3 ou 4 heures à décider des étoiles, parce que vous savez que c'est toujours un travail de fond, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On a mis 5 étoiles pour le Brésil, 4 étoiles pour l'Argentine, 3 étoiles pour la France et l'Espagne, 2 étoiles pour l'Allemagne, l'Angleterre, les Pays-Bas, le Danemark, et 1 étoile pour la Belgique et le Portugal. Alors, plutôt, Martin, que détailler en long et en large qui a 5 étoiles, etc., est-ce qu'il y a quelque chose dans ce classement qu'on a fait tous les deux, on n'est pas forcément d'accord,
non,
qui te choque ou que tu aurais mis un peu plus haut ou un peu plus bas ?
J'aurais mis peut-être l'Espagne un tout petit peu plus bas. Pour moi, il y a un trio quand même qui se dégage, mais chacun avec une hiérarchie très claire. C'est-à-dire qu'effectivement, le Brésil, pour moi, est largement devant parce qu'ils ont tout. C'est-à-dire qu'ils ont une équipe, ils ont les individualités stars qui peuvent faire la différence, ils ont la profondeur de banc et ils ont surtout la dynamique. Voilà, la dynamique, ça, c'est hyper important. L'Argentine, c'est tout pareil, si ce n'est que j'ai un peu plus d'interrogations sur la défense, qui me semble un peu plus fragile que celle du Brésil, mais c'est pareil, c'est une équipe qui n'a pas perdu depuis quasiment 30 matchs, me semble-t-il.
36,
voilà. Et qui a gagné la Copa América. Et je mets la France un peu en dessous parce qu'elle a les individualités, mais il y a beaucoup d'ombre autour des Bleus, l'état physique de Benzema et de Varane, et une dynamique qui est nettement moins claire que celle de l'Argentine et des Brésiliens. Mais malgré tout, je mets la France au-dessus, moi, des autres Européens, parce que les autres Européens, il y a beaucoup de questions individuelles sur des postes. Il me semble que la France a quand même un réservoir et elle sait gagner cette équipe-là aussi. Donc voilà, pour moi.
Donc il y a une chose avec laquelle je suis complètement d'accord, c'est le Brésil à 5 étoiles. Alors pour moi, c'est le clair favori. On s'est posé la question d'ailleurs...
Ça ne veut pas dire qu'ils vont gagner parce que c'est souvent comme ça quand même. Hein.
Mais je le sens bien 20 ans après. J'ai l'impression que tout est en train de s'imbriquer correctement et jusqu'à Neymar qui est fantastique en ce début de saison, vous pouvez enregistrer.
À tous les postes, t'as deux solutions. Donc, sauf les latéraux, mais bon.
Là où je suis pas d'accord, on a eu Christian Gourcuff qui a parlé à Eurosport. On a fait un article dessus sur justement l'état physique et d'une Coupe du Monde potentiellement au rabais où il dit que c'est le talent qui fait gagner une compétition comme ça. Ça, je suis pas d'accord. Alors évidemment, c'est une compétition qui est unique en son genre parce qu'elle arrive au milieu d'une saison et qu'il n'y a pas de préparation. Je pense que c'est pas le talent qui fera gagner, c'est les équipes. Et justement, je pense que les équipes qui vont avoir des certitudes partent avec un temps d'avance ou quelque chose d'assez précis. C'est-à-dire que bah, typiquement, l'Argentine. L'Argentine, oui, vous regardez la défense, vous pouvez vous dire, oh, défense, etc. Bah oui, mais sauf que ça tient. Et quand ça tient au bout d'un certain temps, c'est que tu as dit quelque chose. Et au moins, vous ne perdez pas le temps de vous remettre dans le bain sur, au niveau des certitudes collectives. Je ne vais pas vous étonner en disant que j'aurais mis l'Allemagne une chouille plus haut. Parce que je pense qu'elle est en avant-centre d'avoir une équipe très très
Ouais, bah c'est pas un détail.
performante. Voilà. Bah oui, mais ils en ont deux. On verra, Füllkrug et Moukoko, on ne sait jamais. Il suffit qu'il y en ait un. Non mais on rigole. Non
Non,
mais
mais je
voilà,
rigole pas, je rigole
voilà.
pas.
Mais ça, bon bref. Ça c'est l'arrogance française.
Mais non, mais parce que Maxime, à chaque Coupe du Monde, il en faisait déjà son favori pour la Coupe
Mais
du Monde
bon bref, et
2018.
quand
Bah
je
voilà,
regarde
ils
cette
sont
équipe,
sortis au premier tour.
quand je regarde cette équipe d'Allemagne, je trouve qu'elle a une tête d'équipe qui peut réussir sa Coupe du Monde. Au contraire, malheureusement pour eux, de la Belgique qui là cette fois, je pense, a laissé passer sa chance. La défense. J'avais eu la chance d'interviewer l'année dernière le sélectionneur de l'équipe de Belgique. On voyait que c'était entre deux, voilà. Et je trouve que la défense c'est toujours un peu vieillissant. Et devant Hazard, c'est compliqué. Il n'y a pas Lukaku. Je serais très étonné que la Belgique fasse une grande Coupe du Monde.
Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Peut-être un petit mot sur le Danemark, qui est justement bah, ce qu'on disait tout à l'heure. Si les collectifs, si c'est une Coupe du Monde du collectif, je pense que le Danemark sera en finale, au moins. Et c'est un peu pareil pour les Pays-Bas, qui, eux, ils sont portés par une trajectoire,
Ouais.
par un projet collectif, par...
Et elle a une tête d'équipe qui réussit en Coupe du Monde. C'est
Voilà.
difficile à expliquer, mais je trouve qu'il y a quelque chose dans cette équipe qui me laisse penser qu'elle fera une bonne Coupe du Monde.
Donc le Danemark et les Pays-Bas, si tant est que les Pays-Bas peuvent être une surprise à la Coupe du Monde, malgré tout, leur historique très récent prouve
Ouais.
qu'ils sont loin du compte. Mais ah, peut-être que le Danemark et les Pays-Bas seront la surprise de cette Coupe du Monde. Après, peut-être aussi que son format, son calendrier de cette Coupe du Monde peut faire émerger enfin des vraies équipes surprises, peut-être enfin un nouveau vainqueur, parce que quand on voit notre tronche des favoris, bah, il n'y a quasiment pas de nouveau vainqueur, si ce n'est justement le Danemark et les Pays-Bas.
Ouais, et comme je le dis, hein, s'il y en a eu 8 en
Oui, et
quasiment
peut-être
100
que
ans,
justement, une Coupe du Monde au Qatar, une Coupe du
peut-être.
Monde au mois de novembre, une Coupe du
Oui,
Monde où il n'y a
tout à
pas de
fait.
préparation, peut-être que tous ces facteurs-là mis bout à bout, le fait qu'il y ait aussi quand même quelques blessés, il y en a toujours, mais là, voilà, on a l'impression qu'il y en a quand même.
Et tu sais quoi? Depuis 98, on a sur un rythme de nouveaux vainqueurs tous les 12 ans.
Ben voilà.
98, la France. 2010, l'Espagne.
2022, Maxime.
Le Portugal.
Ah oui, c'est vrai qu'on a mis le
Et
Portugal
on
aussi.
n'en avait pas parlé encore.
On
Le
n'avait pas parlé.
Portugal, ça fait partie de ces outsiders. Pour moi, là,
De toujours.
la grosse ombre sur le Portugal, c'est le paradoxe. Enfin, paradoxe, non, ça l'est plus. C'est Ronaldo. Voilà. Je ne sais pas trop dans quel état d'esprit il est. Il y a toujours ce débat qui est difficile des joueurs de ce statut-là, qu'on a eu en France en 2006 avec Zidane. Est-ce qu'on n'était pas meilleur sans lui? Le débat fait rage au Portugal. Là, il y a son interview avec Piers Morgan, sa situation à Manchester United. Il ne faudrait pas qu'il fasse de cette Coupe du Monde une revanche personnelle. Voilà. Et
Ah, ce
avec
serait la
lui,
pire des choses pour le Portugal.
le problème, c'est que c'est jamais à exclure. Mais pourtant, il y a un collectif, c'est une équipe. On parlait des équipes qui savent gagner. Alors évidemment, ça fait 6 ans, mais n'empêche, c'est une équipe qui sait gagner, qui l'a déjà fait au championnat d'Europe. Donc je me méfierais aussi du Portugal. Voilà. Toutes ces équipes qui arrivent, on va dire, on l'a dit, qui se connaissent, qui ont au moins une forme de certitude collective, ont pour moi un petit avantage. La France aurait pu l'avoir, la France ne l'a pas. Voilà, donc là, ce sera le moment de donner finalement raison à Christian Gourcuff.
Elle n'est pas trop mal placée quand même, la France, dans
Oui, elle n'est pas trop
notre.
mal passée, mais elle a...
Mais elle dégringole.
je ne sais pas ce qu'est sa certitude collective. Là. Voilà. J'espère, hein. Encore une fois, on ne va pas se mentir. Hein.
On rappelle qu'à partir de lundi, nous aurons donc un podcast quasi quotidien, on va dire bon, allez,
6 jours sur 7, on va
6
faire.
jours sur 7, voilà, exactement.
Mais vous aurez un podcast de toute façon de foot quotidien avec Tour du Monde.
Exactement. Alors dans le Tour du Monde, par contre, il y a un gros problème, c'est qu'il n'y aura pas Sepp Blatter, contrairement à notre FC Stream Team. Voilà. Merci encore une fois, Julien, qui a éclairé ma semaine, ma vie, presque, parce que là, je ne vois plus Maxime bah, avec les mêmes yeux, tout simplement. Enfin, Maxime, Sepp. Je lui dis, hein, je lui dis, il y a une petite coupure tout à l'heure, je lui dis que je l'appellerai Sepp jusqu'à la fin de la Coupe du Monde.
Mais tu sais que j'aimerais bien être président de la FIFA quand même.
Ah bah oui! Mais
Mais
moi, j'aimerais pas que tu le
ouais.
sois, parce que mauvaise nouvelle pour la FIFA. Hein.
Non mais ah bah non, bon alors
Non mais là,
la
on
seule
retourne avec des gardiens. Les gardiens, ils ont plus le droit de mettre des gants.
Non
On
non
n'a plus
non,
le droit de
sérieux
faire de
quoi.
passe en
Non bah
retrait aux
non.
gardiens.
Non,
Non mais
tu veux que je te dise avec moi
c'est retour à l'âge de
ce
pierre.
qui serait renouvelé à la FIFA? La probité, l'honnêteté. Mais le problème, c'est que je tiendrai pas 2 mois.
Oui, voilà, c'est ça le problème.
Mais voilà.
C'est que tu serais le,
Non mais en
le...
fait, ça me ferait peur d'être à ces hauteurs-là parce que je me dis qu'il y a toujours un truc qui tombe dessus et que t'es jamais très loin de la prison finalement.
Voilà, bah, c'était la punchline de Maxime.
Un message d'espoir.
Voilà, un message d'espoir pour tout le monde. Donc, on se retrouve, je vous l'ai dit, je vous le répète, à partir de lundi pour un podcast quotidien et des vidéos, évidemment, quotidiennes sur le site eurosport.fr. La Coupe du Monde démarre donc dimanche. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Maxime? Je vois que tu te marres.
Bah non, bah, bonne Coupe du Monde, Martin.
Bah merci. Merci, bonne Coupe du Monde à tous. Merci à Adrien, qui était aux manettes dans le studio. Merci à Quentin Guichard au visuel. Et donc, rendez-vous lundi. Ciao, ciao.
Salut.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.